Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons commencé le catéchisme dans la partie sur la profession de foi chrétienne, le credo, et nous parlions de Dieu lors de notre dernier échange, de Dieu qui est, qui révèle son nom. Quelque chose qui est important, me semble-t-il, c'est à la fois Dieu est le tout autre, il est le transcendant, il est celui qui est, et nous recevons l'être de celui qui est, mais ça n'empêche pas Dieu d'avoir pris part à notre histoire. Il y a bien une histoire sainte, Dieu vient dans notre histoire, Dieu est désigné comme le Dieu de tendresse et de pitié, selon la formule des psaumes. Il est celui qui va avoir pitié de son peuple, donc il va venir prendre part à cette histoire, à la rudesse de la vie du monde, et là en l'occurrence de son peuple.
Oui, cette parole qui est révélée à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, montre bien le cœur de miséricorde de Dieu qui se penche sur sa créature et qui ne l'abandonne pas. Dieu n'est pas, voyez, un être lointain qui resterait dans les nuées et qui se désintéresserait de ce qu'il a réalisé en créant. Il accompagne sa créature. Il lui procure la vie, le mouvement et l'être, comme dira saint Paul dans son discours aux Athéniens. Et même nos opérations, dira saint Paul, sont dans les mains de Dieu. Et nous comprenons bien que Dieu donc prend soin de sa créature. Et il s'intéresse tellement à ce que nous sommes qu'il a voulu rentrer dans l'histoire. Ça, c'est vraiment la redécouverte, je crois, du Concile Vatican II qui a voulu redire les choses d'un point de vue historique, c'est-à-dire qui a voulu reprendre tous les traités de l'Église à travers la continuité de l'histoire. 20 siècles d'histoire pour ce qui est de la Nouvelle Alliance, et puis tous les siècles de la Première Alliance, les 18 siècles de la Première Alliance, selon nos catégories historiques, qu'il ne faut pas oublier, les deux se tenant ensemble, eh bien, l'Église a voulu à chaque fois redire, mais oui, déjà Dieu a parlé dans la Première Alliance, Dieu a parlé en Jésus-Christ, Dieu parle dans son Église. Et ça prouve une continuité dans le temps, un dessein d'amour bienveillant qui s'inscrit dans le temps, mais cette reconsidération de l'histoire n'exclut évidemment pas du tout ce que Dieu n'a cessé de répéter pendant toute cette révélation, qu'il était transcendant, et qu'il la transcende cette histoire, parce qu'il est au-delà du temps, puisque c'est lui qui le crée. Il est éternel. Le temps, je ne peux pas dire qu'il y a un avant en Dieu ou un après en Dieu. Il est au-delà, puisque c'est lui qui le crée. Et le catéchisme le rappelle d'une manière très forte dans un symbole dit de Latran IV en 1215. C'est un contemporain de notre père fondateur Saint-Dominique. Souvenons-nous de ce beau concile. Credo firmiter, je crois fermement, nous croyons fermement et nous affirmons ça. Simplement qu'il y a un seul vrai Dieu, immense et immuable, incompréhensible, tout-puissant, ineffable, Père et Fils et Saint-Esprit, trois personnes, mais une essence, une substance ou une nature absolument simple. C'est un très très beau texte qui redit à la fois cette transcendance de Dieu et Dieu qui a bien voulu rentrer dans le temps, nous a dit avec des mots tout simples, eh bien, son intimité profonde, puisqu'il nous a révélé qu'il avait un père, le fils, le monogène du père, le fils bien-aimé du père nous a dit qu'il avait ce père qu'il aimait, et au moment clé du baptême, de la transfiguration, même la voix du père s'est faite entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, ça a été quand même des moments très très fort pour la petite communauté des apôtres qui ont été témoins, et il nous a promis l'Esprit Saint, Et cette révélation qui ne retirera en rien l'unité, l'unicité de Dieu, nous fait entrevoir, mais il faut attendre le ciel pour y goûter pleinement, eh bien, le mystère de la vie intime de Dieu, de ses relations intimes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand même une très très grande grâce faite à l'humanité qui aurait pu très bien se contenter de la première alliance et dire ben, ils verront bien au ciel une fois qu'ils y seront. Et non, il a voulu descendre dans notre matière, dans notre chair, et nous donner ainsi une plénitude de révélation.
En fait, cette part de Dieu dans l'histoire, alors nous en avons déjà parlé, là tu viens de le redire, hein, c'est déjà cette parole humaine dans laquelle, par laquelle nous est révélé Dieu, la parole éternelle, si je puis dire, voilà qu'elle passe par la parole humaine avec ses limitations. Et l'autre chose que tu as souligné, c'est la question du temps. C'est vrai que le Dieu éternel, on a du mal à se dire, le Dieu éternel, voilà qu'il pose le temps, un début et une fin. Notre temps a un début et a une fin. Et c'est quelqu'un qui est éternel, c'est notre Dieu éternel qui peut poser ça. D'ailleurs, toi qui es assez spécialiste de Saint Augustin a été très marqué par ça. Cette question du temps.
La fin des confessions est toute marquée par ce rapport au temps. Et finalement, Saint Augustin a une bonne spiritualité, je dirais, de l'instant présent, et ça va donner des très très belles spiritualités d'être présent à la présence, de regarder un bienheureux Laurent de la Résurrection qui va avoir une belle figure hein, dans ses casseroles comprend que ce qui compte, c'est qu'il soit dans son devoir d'État, là où il est, et ce temps qui est donné, qui lui est donné à lui, et le temps qui le met en coïncidence avec l'éternité. C'est extraordinaire. Thérèse d'Avila dira, mais bien sûr, vous pouvez trouver Dieu dans vos casseroles, mes sœurs, extraordinaire.
Laurent a cette jolie phrase, je ne sais plus si c'est une religieuse, une supérieure de communauté ou une dame de l'aristocratie qui le contacte en disant, je fais beaucoup de choses, je suis loin de tout dans ma foi, et lui qui lui dit, Dieu est présent avec vous là-dedans, ne le laissez pas seul à côté de vous. Dit-il. Je trouve cette formule assez extraordinaire.
Et c'est très beau, comme si Jésus nous accompagnait, mais qu'il nous demande quand même qu'on ait un œil sur lui et qu'on le prenne comme un intime, c'est-à-dire quelqu'un à qui on puisse confier les secrets de nos cœurs, nos soucis, nos espoirs, nos difficultés, et de temps en temps lui demander pardon quand nous faisons un faux pas. Et c'est un rapport de l'ami avec l'ami. Dieu a voulu être notre ami. Et je crois que c'est une très grande grâce que Jésus dit à ses apôtres quand il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis », Jean 15:15. C'est un verset que tout chrétien devrait avoir dans son cœur pour ressentir la présence de ce Dieu qui est, ce Dieu qui a dit « Je suis celui qui suis », mais qui contient, dans lequel il faut dire cette vérité que Dieu seul est, en profondeur, d'une manière totale, alors que nous sommes des êtres par participation.
Du reste, évidemment, Dieu prend part de notre histoire au plus haut point, il le fait en son Fils, Jésus-Christ, qui lui-même révèle, comme le rappelle le catéchisme, lui-même révélera qu'il porte le nom divin. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, on trouve ça dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 28, mais plusieurs fois ce mot je suis, ego eimi en grec, reprend, pour les auditeurs qui étaient avec lui, ils savaient que tout d'un coup il était en train de prendre pour lui ou de prendre sur lui une expression qu'on appliquait à Dieu.
Exactement, et d'ailleurs ses interlocuteurs qui lui étaient opposés, ses grands opposants, pharisiens et autres, l'ont vite compris parce qu'ils l'ont accusé de vouloir se prendre pour Dieu. Et pour eux c'était une prétention inacceptable. À partir du moment où ils disaient « avant qu'Abraham fût, je suis », pour eux c'était inimaginable, ça leur criait aux oreilles, c'est-à-dire c'était affirmer qu'il était dans la même sphère que Dieu révélé dans la première alliance et qu'il était en identité avec lui. Et c'est quelque chose qui faisait exploser toutes les parois, je dirais, de connaissances terrestres dans la temporalité. Tu n'as pas 40 ans et tu dis que tu vas rebâtir ce temple. Ça leur paraissait fou, ces expressions de Jésus. Détruisez ce temple, temple et en trois jours, je le rebâtirai. Des écrivains qui transcendaient totalement le temps et qui montraient le projet d'amour, la solidité de ce projet d'amour, où Dieu se révèle finalement vis-à-vis de nous comme premier attribut divin, c'est la miséricorde. Sœur Faustine, un jour, cette grande mystique polonaise, disait ça à son père spirituel. Non, mais on parlait de révélation privée dans une émission antérieure, et Sœur Faustine a beaucoup développé la contemplation du cœur miséricordieux, un peu comme apparaît le monial, et le cœur ardent de Jésus, et elle le voyait lumineux, avec des rayons de sang, des rayons d'eau, qui voulaient abreuver le monde, et le nourrir, et le sauver. Et à un moment, Jésus lui fait comprendre que le premier attribut divin, c'est la miséricorde. Et alors, elle est surprise, parce qu'elle n'était pas habituée à ce langage dans sa Pologne lointaine. Elle va voir son père spirituel et elle lui dit, mais voilà ce que j'ai compris, c'est que le premier attribut divin est la miséricorde. Les cheveux se hérissent de son père spirituel. Il se dit, je vais quand même aller vérifier avant de la gourmander, de lui dire qu'elle est sèche de dire des choses qui dépassent le vocabulaire habituel des prédications de l'époque en Pologne. Il va chercher la somme de saint Thomas et il voit que le premier attribut divin par rapport à nous, c'est la miséricorde. Extraordinaire. Et alors, en lisant saint Thomas d'Aquin, il s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire, elle n'a pas lu saint Thomas d'Aquin, et moi, qui n'avais pas assez bien étudié mon saint Thomas d'Aquin, je ne m'étais pas aperçu de cette parole considérable que le premier attribut divin, c'est la miséricorde, par rapport à nous, évidemment, pas en Dieu. En Dieu, c'est la simplicité, on l'a vu dans une émission précédente, mais par rapport à nous, c'est la miséricorde. Et c'est vrai que dans la révélation à Moïse, c'est ça qui passe en premier. Adonai, Adonai, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. C'est une expression d'un Dieu qui est riche en miséricorde, comme dira saint Paul. Et c'est dans cette miséricorde que nous voulons nous situer et dire à tous ceux que nous rencontrons cette bonne nouvelle que Dieu est miséricorde.